Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pierrick Mancini.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Des offshore leaks aux Panama Papers, les révélations de scandales fiscaux se multiplient depuis plusieurs années, sans que l'existence des territoires vierges de l'impôt ne semble véritablement remis en cause. Certes, plusieurs dizaines de milliards d'euros sont revenus dans les caisses des États depuis la crise de 2008, mais ce sont des dizaines de milliers de milliards de dollars qui seraient toujours cachés dans les paradis fiscaux, des îles Caïmans aux Bermudes en passant par le Delaware. Et si c'était d'abord le langage qu'il fallait remettre en question pour lutter contre l'évasion fiscale, c'est ce que suggèrent nos deux invités aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Et pour mieux comprendre comment les mots dissimulent la réalité de la fraude fiscale, nous avons le plaisir de recevoir Alain Deneau en duplex de Fredericton au Canada, philosophe, directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris et auteur d'une escroquerie légalisée précise sur les paradis fiscaux paru aux éditions Éco-Société. Et nous recevons également Jean de Maillard, magistrat honoraire, essayiste et auteur de L'arnaque, la finance au-dessus des lois et des règles, publié chez Gallimard. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Quelles sont les circonstances qui vous obligeraient à coopérer avec le FBI ou avec le département de la justice américaine, par exemple ?
Ça dépend.
Ça dépend ?
Ouais.
Ça dépend de quoi ? Qu'entendez-vous par là ?
Des projets d'invasion de la Suisse par les Américains dans un futur proche.
Ce que je veux savoir, espèce de Suisse de mes deux, c'est si tu as l'intention de me baiser.
Mais j'ai très bien compris, petite amerlogue de merde.
La seule raison qui pousserait la Banque Réale de Genève à coopérer avec une autorité étrangère serait que le crime qui est poursuivi soit aussi considéré comme un crime en Suisse. Mais il y a peu de lois suisses qui répriment ce genre de petites irrégularités. Financièrement parlant, vous êtes au paradis.
Alain Deneau et Jean de Maillard, bonjour.
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 Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez peut-être reconnu la voix de Jean Dujardin dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Il incarne donc un banquier suisse face à Leonardo DiCaprio. Vous êtes au paradis, lui dit-il. On va revenir sur ce terme. Mais d'abord, Alain Deneau, pourquoi est-ce que ce sont en premier lieu les romanciers, les réalisateurs de films à succès qui se sont emparés de la question de l'exil fiscal, selon vous ?
Parce que les citoyens sont plus au fait qu'on ne le pense de la réalité offshore et plus au fait, je dirais, que même tendent à le penser. Très souvent, on considère les paradis fiscaux comme un objet complexe qui relève des compétences exclusives de juristes ou de comptables ou d'experts. Alors que, effectivement, à partir des années 60-70, les réalisateurs d'Hollywood, les romanciers de romans noirs, les bédéistes ont inscrit les paradis fiscaux dans leurs intrigues à des fins de vraisemblance. C'est-à-dire que le public, au fond, ne prendrait pas au sérieux un baron de la drogue ou un politique corrompu ou une grande banque internationale transigeant avec des narcotrafiquants si elle n'avait pas accès à des comptes à numéros. Au fond, tout le monde en est conscient. Mais cet art de masse a eu tendance à naturaliser les paradis fiscaux comme s'ils avaient toujours été là, comme s'ils faisaient partie du décor et comme si on ne pouvait pas ni les critiquer ni les combattre. Et donc, l'important est de passer de l'art du divertissement à l'action politique.
Ce que vous voulez dire, Alain Deneau, c'est que le grand public a une compréhension certaine, intuitive de ce phénomène, mais c'est une compréhension dont nous n'avons pas nécessairement conscience.
Oui, c'est le sens d'un documentaire auquel j'ai participé avec Alexandre Gingras qui s'intitule « Je ne savais pas que je savais ». On ne pourrait pas croire en l'intrigue d'un film d'Hollywood portant sur le narcotrafic si les grands barons qu'on nous présente se promenaient eux-mêmes avec des mallettes remplies de liasses de billets. Il faut qu'on ait accès à des comptes au Luxembourg, en Suisse, au Panama, aux Bahamas, et on nous montre continuellement d'une manière assez subtile, assez technique, cette réalité-là, sans pour autant qu'on soit... les choses évoluent, mais dans les années 60, 70, 80, sans qu'on soit amené à critiquer ces phénomènes sur un plan politique. Maintenant, on y est.
Alors, ce que nous allons tenter de montrer dans cette émission, c'est ce que l'on pense savoir, qu'il faudra ensuite comparer à la réalité du phénomène. Et d'abord, avec les révélations en cascade de ces dernières années, Jean de Maillard, est-ce qu'on peut dire que notre connaissance de l'évasion fiscale n'a jamais été aussi complète ?
Oui et non, parce que, comme le dit Alain Deneau, en fait, ce qui compte en réalité pour Monsieur Tout-le-Monde, et de même d'ailleurs que pour les responsables politiques, c'est la connaissance intuitive des paradis fiscaux. Parce que les paradis fiscaux, en fait, c'est un terme générique qui recouvre beaucoup de choses, des situations très différentes, mais qui toutes concourent en réalité un peu à la même chose, c'est-à-dire à dissimuler de l'argent, et à dissimuler surtout des flux d'argent. Donc, on a bien sûr une meilleure connaissance, mais je crois surtout qu'on a le sentiment d'une présence plus forte. Oui, ça, certainement, ces révélations successives ont permis cela.
Alors, que dissimulent les mots quand on parle d'évasion fiscale ? On va s'intéresser d'abord au terme de paradis, puisqu'on parle de paradis fiscaux. Pourquoi est-ce que c'est un terme qui pose problème, selon vous, Alain Deneau, et d'où vient-il ?
Ben manifestement, le terme paradis fiscal relève d'un recyclage de l'esthétique coloniale. Quand les des suites du plan Marshall, on s'est retrouvé avec ces euro-dollars en abondance. Jean de Maillard en a bien parlé dans ses livres. On a trouvé dans ces législations relevant de la couronne britannique un point d'atterrissage et un lieu d'inscription de ces capitaux pour pouvoir en disposer sans être encadré de quelque manière que ce soit par des législations politiques. Et il a bien fallu nommer ces lieux. Et on a des fiscalistes assez cyniques comme Édouard Chambaud et d'autres qui ont travaillé à toute une nomenclature qui consiste à recycler l'esthétique coloniale, puisque les paradis fiscaux sont souvent d'anciennes colonies. Alors cette idée des îles lointaines où toute licence est permise avec les palmiers, les cocotiers, a fourni son lot de références. Et donc on s'est mis à parler de paradis fiscaux, de havre et d'oasis selon les langues, en ce sens. Et est venu avec ça, pas seulement toute une terminologie d'inspiration coloniale, mais, et je crois que c'est le problème central, toute une récupération du discours traditionnel de la politique et de l'économie pour nommer des opérations qui sont radicalement étrangères à ce qui est censé nommer le vocabulaire de référence. Lorsqu'on dit, par exemple, que dans un paradis fiscal, il y a des investissements directs à l'étranger, et on a ça dans des statistiques officielles, c'est tout à fait faux. Il ne s'agit pas d'investissements au sens traditionnel où on s'intéresserait à un chantier naval. Lorsqu'on dit qu'il y a des fiducies, c'est tout à fait faux, parce que le bénéficiaire d'une fiducie peut être précisément la personne qui la fonde, et ainsi de suite. Donc, on est continuellement en train de voiler ce qui se passe dans les paradis fiscaux avec un vocabulaire qui est ou bien folklorique, folklorisant, ou bien conforme aux pratiques économiques habituelles.
Et puis par ailleurs, on parle de paradis fiscal, mais alors cet adjectif est peut-être impropre, car la fiscalité, donc, c'est qu'un seul aspect de ce que peut offrir un paradis fiscal. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Jean de Maillard, quelles sont les différentes possibilités justement offertes par ce qu'il ne faut pas, mais ce qu'on va quand même appeler par facilité ces paradis fiscaux ?
Alors, il faut bien comprendre que, comme le disait à l'instant Alain Deneau, un paradis fiscal ou un paradis bancaire et fiscal, c'est d'abord essentiellement un leurre juridique. C'est-à-dire que c'est une construction artificielle dans laquelle les États vont utiliser leur souveraineté pour créer des règles de droit, des législations et, bien entendu, aussi des pratiques, notamment juridiques, à certaines fins. Et ces fins sont de permettre à des capitaux de venir, alors s'investir entre guillemets, parce qu'il est vrai que ces paradis ne reçoivent rien, si vous voulez, en tant que tels. Ils ne sont que, en quelque sorte, des plateformes qui permettent à l'argent de pouvoir rebondir, de plateforme en plateforme. Et aussi, ce qu'il faut d'emblée dire, c'est que derrière l'exotisme du vocabulaire, en réalité, ce qui est principalement dissimulé, c'est le fait que les paradis bancaires et fiscaux, ce sont d'abord les pays développés. Le premier et le plus grand paradis bancaire et fiscal au monde, c'est Londres. Ensuite, ce sont les États-Unis, le Delaware, le New Jersey. Et chaque pays, quelque part, aménage toujours au moins quelques niches de façon à essayer d'attirer des capitaux pour une raison ou pour une autre.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, chaque centre financier offshore s'est spécialisé dans tel ou tel domaine. Donc on peut en quelque sorte faire son marché parmi les paradis bancaires et fiscaux en fonction du ou des services que l'on cherche.
Oui, mais attention, ces places offshore ne sont que des sous-traitants. Le donneur d'ordre, ce sont les pays développés. Ce sont les pays où se trouvent les conseils d'administration des banques et des entreprises du CAC 40, entre autres.
C'est notamment pour cela, Alain Deneau, que vous préférez au terme de paradis fiscal, celui de législation, de complaisance ?
Oui, tout à fait, parce qu'on peut évidemment, par cette expression-là, éviter de se cantonner à la seule question fiscale et voir les législations de complaisance comme la catégorie générique de législations qui permettent de l'ultra-permissivité dans maints secteurs d'activité, dans à peu près tous les secteurs d'activité qui comptent. Alors, les législations de complaisance sont un petit peu comme les boutiques d'un centre commercial, si elles existent au nombre de 80-90 selon les définitions, et peut-être plus, c'est parce qu'elles offrent une expertise particulière. Si on veut faire travailler des enfants, on va au Bangladesh, dans une zone franche ou éventuellement en Jamaïque. Si il s'agit de contourner les règles en matière d'assurance aux États-Unis, à ce moment-là, les îles Turques et Caïques sont toutes désignées pour accueillir cette activité-là. S'il s'agit de se lancer dans l'industrie du pourriel, là, des spams, on va aux îles Saint-Kitts et Nevis. Il y a une législation pour ça. Le Canada accueille 3 sociétés minières sur 4 dans le monde parce que ces lois sont clémentes en ce qui concerne les droits de la personne et le financement. Pour la finance à risque, ce sont les îles Caïmans. Pour les plateformes en mer, ce sont les îles Marshall. Pour le droit de propriété intellectuelle, ça a été longtemps et en partie encore l'Irlande et ainsi de suite. Donc on a, c'est Marie-Christine Dupuy-Danon qui disait, le problème aujourd'hui, c'est lorsque les administrateurs d'une grande entreprise multinationale ont pour dessein de faire quelque chose, ils ne se demandent même plus si c'est légal ou pas, ils se demandent quel est le lieu dans le monde où on pourra inscrire cette activité afin qu'elle devienne légale. Mmh. Et ce sont tous les termes de la pensée politique qui requièrent d'être redéfinis, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté de l'État, la frontière, la loi, le crime, sont des notions qui sont relativisées par les paradis fiscaux qui sont les plateformes de la moitié des transactions financières internationales.
Et dans ce paysage, vous citez notamment les Bermudes qui seraient en quelque sorte le supermarché, si l'on file la métaphore, où l'on peut pratiquer à peu près toutes les activités que vous avez citées. Alors, quel que soit ce que l'on cherche à faire, Jean de Maillard, on trouve toujours le pays qui rendra légale la pratique qui nous intéresse, ce dont ne se privent pas notamment les grandes institutions financière et les multinationales de la grande industrie au premier chef.
Oui, oui, absolument. D'ailleurs, je crois que ce qu'on peut définir peut-être de façon un petit peu humoristique ces fameux paradis bancaires et fiscaux comme les couteaux suisses, si vous me pardonnez l'expression, de l'illégalité légitime. C'est-à-dire, en fait, toutes ces techniques juridiques et financières qui sont mises à la disposition pour créer à la fois de l'illégalité, mais aussi de la légitimité.
Et alors, ce qui caractérise désormais les frontières, Alain Deneau, c'est que justement, ce que vous disiez, c'est qu'elles sont soumises à des règles pour certains et pas pour d'autres. Et en l'occurrence, que ces règles sont à l'avantage des plus puissants.
Tout à fait. On ne peut pas penser le problème des paradis fiscaux sans évoquer les acteurs qui les utilisent en particulier, c'est-à-dire les entreprises multinationales. Les paradis fiscaux sont, et les législations de complaisance sont pertinentes pour elles parce qu'elles ont une... elles sont composées d'une façon adaptée. Les multinationales n'existent pas. Total n'existe pas. Coca-Cola n'existe pas. Ce ne sont pas des sujets de droit. Ce qui existe, c'est un réseau de filiales, un réseau d'entités solidaires d'un point de vue financier, mais indépendants, autonomes du point de vue du droit, qui agissent, entre guillemets, dans la légalité le plus souvent, c'est ce qu'on prétend, et hélas, parfois à juste titre, mm-hmm. étant donné que chaque filiale doit répondre du droit, de la législation dans laquelle elle a été créée. Donc, quand une entreprise, les représentants d'une grande entreprise pétrolière, par exemple, vont nous dire qu'on agit continuellement dans la légalité, ça veut dire que la filiale iranienne du groupe respecte scrupuleusement le droit iranien en ce qui concerne la corruption des agents publics, que la filiale bermudéenne respecte scrupuleusement le droit des Bermudes en ce qui concerne la fiscalité, hein, que le droit, la filiale du Myanmar respecte le droit du pays en ce qui concerne le travail des enfants. Donc, on est dans un morcellement d'entités qui répondent de droits hétérogènes et qui ne sont jamais confrontées à une autorité publique qui est capable, elle, de légiférer à l'échelle sur laquelle le groupe se déploie, c'est-à-dire le monde. Il n'y a pas d'autorité publique capable, en quelque sorte, de contraindre Total, Monsanto ou Coca-Cola ouais. d'agir de telle ou telle façon en tant que groupe.
Oui, alors c'est ça peut-être le problème, Jean de Maillard, c'est que le groupe que constitue la multinationale n'est pas un sujet de droit.
Quasiment, non, effectivement. Et je crois que Alain Deneau vient parfaitement de résumer la situation. C'est qu'on a un paradoxe, c'est qu'on a des activités économiques et financières dont l'échelle, dont le niveau aujourd'hui, c'est le monde. Et ces groupes s'organisent à ce niveau-là et ensuite font leur marché juridique, bancaire, fiscal, là où ça les intéresse. C'est tout.
Et alors, de la même façon, désigner les règles existantes dans les paradis fiscaux comme des lois, même si on les qualifie souvent de lois permissives, pour vous, c'est impropre, Alain Deneau, car, dites-vous, en réalité, ce sont des anti-lois. Alors, expliquez-nous cela.
Effectivement, dans une législation de complaisance, par définition, la loi est retournée comme un gant. Si vous lisez un texte de loi, le libellé d'un texte de loi du Libéria ou des Bermudes, vous vous rendrez compte que vous êtes confronté à la version macabre du slogan là, jadis généreux de mai 68, il est interdit d'interdire. On vous dira cette filiale, enfin cette société exemptée ou ce trust ou peu importe la structure peut être administrée par n'importe qui. Elle peut être représentée par n'importe quel avocat. Le capital peut être de n'importe quel ordre. On peut faire n'importe quoi. Il est permis de faire n'importe quoi. Et très souvent, on va adapter. C'est pour ça que sur un plan fiscal, souvent chaque législation a en quelque sorte son espèce de pendant négatif hein, pour faire filer cette fois une métaphore photographique. Hein. C'est qu'on a une loi, par exemple le Liechtenstein par rapport à l'Allemagne, ou longtemps la Suisse par rapport à la France, ou la Barbade par rapport au Canada. On a un État qui se spécialise dans la façon de rendre possible ce qui est interdit dans une autre législation, une législation traditionnelle. Et ça peut passer par différents mécanismes ou tours de passe-passe. Par exemple, pour citer le cas canadien que je connais bien, la Barbade a signé avec le Canada en 1980 un accord de non-double imposition. Hein, ce qui veut dire qu'une entreprise canadienne, par exemple, qui a des clients à l'étranger, peut émettre ses factures depuis sa filiale de la Barbade, inscrire son bénéfice dans cette législation, payer moins d'1% d'impôts et transférer ensuite ses actifs au Canada en prétendant avoir déjà payé des impôts en moins d'1%. Et le gouvernement, en quelque sorte, a rendu possible cet échappatoire. Et cela nous amène à considérer toute la dimension sociologique du problème. C'est-à-dire qu'on a des chefs d'État qui proviennent des milieux industriels ou bancaires qui, sur une base quotidienne, recours aux paradis fiscaux.
Alors on va y revenir bien entendu, mais je voudrais vous entendre sur cette notion de souveraineté louée. Est-ce qu'il faut parler de souveraineté louée dans le cas des paradis fiscaux? Expression de Thierry Godefroy et Pierre Lascoum dans leur livre Le capitalisme clandestin, Alain Deneau.
Tout à fait, il s'agit d'une abdication. Si vous reprenez le cas des Bahamas, on le voit bien par l'historique des paradis fiscaux. Souvent, on en parle comme s'ils avaient toujours été là. Ils sont, dans leur forme, disons, contemporaine, ils sont assez récents. Ils datent des années 50, 60, 70, souvent. Si vous prenez, si on analyse la façon dont ils ont été créés, on voit bien quels sont les acteurs qui sont à l'origine de leur création. Les Bahamas ont été créés comme paradis fiscaux, là, à l'époque où le ministre des Finances et du Tourisme, qui était lié à toute la question du recyclage des fonds mafieux états-uniens par des casinos et des hôtels, était Sir Stafford Sands, qui était ministre des Finances, ministre du Tourisme et membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada, tout à la fois. Mmh. Et il était en lien avec un représentant de la Banque Scotia, c'est tout, parfaitement documenté tout ça, de la Banque Scotia, qui était un ancien ministre des Finances du Canada. Donc on a des acteurs qui, au fond, rendent orpheline leur population. Très souvent, quand il s'agit de faire la défense et l'illustration des paradis fiscaux pour ceux qui s'y risquent, on va dire ces populations-là ont droit de se développer, ainsi de suite, et trouvent les moyens qu'elles ont. Non, pas du tout. Ce sont des populations qui sont totalement abandonnées par une petite élite politique locale qui a la taille du conseil municipal de Dijon, quoi, disons. Ce sont des tout petites entités et qui sont en quelque sorte coupées de leur population et corrompues ou en tout cas en collusion avec le système bancaire et industriel international.
Jean de Maillard, les paradis fiscaux abdiquent leur pouvoir législatif et juridictionnel au profit d'intérêts financiers, commerciaux, industriels, qui finissent par devenir souverains, par écrire véritablement la loi.
Je ne sais pas si ce sont ces grands pays utilisateurs des paradis fiscaux qui écrivent la loi, mais il est vrai que ces places offshore sont des mercenaires au service d'une finance dématérialisée qui joue avec les ombres de façon à pouvoir dissimuler tous les flux financiers. Je crois qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus, si vous voulez, parce que tout est contenu dans cette remarque.
Dans ce contexte, est-ce qu'on peut vraiment parler d'investissement direct à l'étranger, d'IDE, comme on commençait à le dire tout à l'heure? Je vous propose à ce propos d'écouter Christian Chavagneux, journaliste et éditorialiste à Alternatives économiques.
Prenez l'ensemble des multinationales européennes et vous regardez la façon dont elles vont investir dans le reste du monde. Quel est le premier pays à partir duquel les grandes multinationales américaines investissent? C'est le Luxembourg. Et c'est 55%, c'est vraiment massif. L'Allemagne est le deuxième pays avec une part de 8,7%, et c'est très peu. À l'inverse, lorsque l'ensemble des multinationales du monde entier viennent investir au sein de l'Union européenne, quel est le premier pays qui va recevoir leur flux? Le Luxembourg à 33%. Donc soit le Luxembourg est une puissance industrielle largement mésestimée, avec des grandes multinationales dont on a tous oublié le nom, soit il se passe quelque chose. Et les Nations Unies nous disent il se passe quelque chose, puisque la CNUSED a fait un petit calcul pour savoir, parmi l'ensemble de ces flux d'investissement à l'étranger et étrangers venant en Europe, et ceux qui rentrent spécifiquement au Luxembourg, quelle est la part d'activité réelle et quelle est la part d'activité liée à des sociétés écrans?
On l'entend, dans ce contexte, il est difficile, Jean de Maillard, de continuer à parler de façon un peu globale d'investissement direct à l'étranger.
Oui, tout à fait. Dans ce que dit Christian Chavagneux, il a raison. La moitié des investissements directs à l'étranger passent par les paradis fiscaux. Sauf que ça n'est qu'une réalité de comptabilité, et de comptabilité privée, de comptabilité publique. Dans la réalité, que ce soit le Luxembourg, les Bermudes ou n'importe quelle place offshore, encore une fois, ce ne sont que des mascarades, parce que l'argent lui-même n'est jamais dans ces paradis. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre quand on s'intéresse aux flux financiers, c'est que l'argent, en réalité, ne circule pas. L'argent, c'est simplement des écritures comptables. Et ces écritures comptables, quand il s'agit d'une devise, elles sont dans la banque centrale du pays qui émet la devise. Donc, quand vous faites un investissement, par exemple, en dollars, eh bien, cet investissement en dollars va se manifester par des instructions qui vont passer d'un ordinateur à un autre sur toute une chaîne d'ordinateurs qui remontent jusqu'aux ordinateurs de la Fed, dans lequel la Fed va enregistrer des déplacements dans ses propres livres comptables. Donc en réalité, tout cela, ce n'est que de l'écriture, que des jeux d'écriture. Et on parlait tout à l'heure des conventions fiscales. Je ne sais pas si vous envisagez de revenir sur cette question, parce que c'est un élément absolument déterminant. Sans convention fiscale des grands pays industrialisés ou bancarisés ou financiarisés avec ces places offshore, il n'y a pas de paradis fiscal.
Alors avant d'y venir, en continuant à parler d'investissement direct à l'étranger, on intègre donc par le langage les paradis fiscaux dans les processus économiques licites, Alain Deneau ?
Tout à fait, c'est cette terminologie traditionnelle de la pensée économique et politique qui se trouve en quelque sorte étendue aux activités en cours, en vigueur dans les législations de complaisance, contribue à banaliser les législations de complaisance, à les intégrer, à les normaliser dans les opérations économiques standards. Lorsque vous considérez, par exemple, et les mots n'ont plus de sens, lorsque vous considérez qu'on peut créer une fondation caritative aux Caïmans qui vont louer à Air France ses avions. Je veux bien qu'on n'ait pas à juger de ce qui relève de la morale chez les uns et les autres, mais c'est quand même curieux comme philanthropie. Et donc, continuellement, on est face à des structures qui pervertissent le langage, qui usent du langage et abusent du langage tellement qu'on constate qu'une des grandes faiblesses de la pensée critique sur les paradis fiscaux, une autocritique qu'on pourrait s'administrer à nous-mêmes, c'est qu'on n'a pas su développer un discours, une nomenclature, un vocabulaire pour décrire autrement ce qui a trait à l'activité offshore. Comment appeler ces structures-là pour éviter de reprendre les expressions des pouvoirs qui y recourent? Cesser de dire des paradis fiscaux. Cesser de dire qu'il y a des investissements dans ces législations qui, en vertu de leurs lois, permettent la création de sociétés et d'entités de tout genre, qui sont en fait des faux-nés, qui sont en fait une forme de maquillage d'opérations qui mérite un discours beaucoup plus dur. Et bien entendu que ce vocabulaire, on le retrouve dans tous les ouvrages critiques sur les paradis fiscaux, mais il n'a pas été en quelque sorte structuré. Il faudrait pratiquement constituer un lexique là, en bonne et due forme qui nous permette de nommer autrement ces législations-là pour éviter de les banaliser. I pay the tax.
Thank you.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'était Pay the Tax du duo britannique Otsuki. Nous sommes toujours avec Alain Denot et Jean de Maillard pour parler de la grande évasion, l'évasion fiscale. Alors quel est le coût de l'évasion fiscale pour les États et donc pour les sociétés? Écoutons Gérard Filoche qui était alors membre du bureau national du PS avant son éviction, c'était en 2015.
On va parler des Luxembourgeois. Il a été 15 ans ministre de l'économie au Luxembourg, puis 15 ans Premier ministre. Pendant ces 30 ans-là, il a blanchi l'argent de 340 entreprises. C'est estimé à un total de 2 400 milliards d'euros. Parmi les 340 entreprises, il y a 58 multinationales françaises qui, au lieu de payer l'impôt à notre République, de permettre qu'on aide les chômeurs à avoir du boulot, de permettre qu'on ait de meilleurs hôpitaux, de permettre qu'on ait de meilleures écoles, ils trichent au Luxembourg avec la complicité de Jean-Claude Juncker, lequel dit aux Européens « Ayez un budget en équilibre, les yeux dans les yeux ». Et il leur dit « Ne dépassez pas ». Pendant qu'il triche et que c'est lui qui frôle sur le budget qui permet qu'il ne soit pas en équilibre. On est quand même dans un système inouï. Je ne sais même pas comment les peuples européens ne se révoltent pas.
Jean de Maillard, le manque à gagner pour les États est a priori considérable, mais il est évidemment extrêmement difficile à chiffrer.
Oui, on donne des chiffres. On parle souvent de 1000 milliards, 1500 milliards.
Il y a une mission parlementaire française qui a estimé cette année que 60 à 80 milliards d'euros échappaient au trésor public chaque année.
En France, oui.
En France.
Alors après, on multiplie par le nombre de pays représentés à l'ONU et puis on a des chiffres faramineux. En réalité, personne n'en sait rien. On n'a pas de base scientifique d'évaluation. Parce que, encore une fois, ces phénomènes permettent de servir à beaucoup de choses. Ils servent à la fraude fiscale directe, c'est-à-dire ce qui échappe au fisc et qui aurait dû lui revenir en application de la loi fiscale. Bon, ça c'est le plus simple. Mais vous avez aussi l'optimisation fiscale, c'est-à-dire l'utilisation de règles légales qui vous permettent de payer moins d'impôts de façon parfaitement régulière. Il suffit simplement d'être bien conseillé et, le cas échéant, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, de pouvoir vous loger dans ces plateformes offshore.
Et là, c'est nettement plus difficile à évaluer.
C'est déjà infiniment plus difficile puisque ça n'est pas interdit. C'est simplement des finesses de citadins, comme on disait jadis. Et puis, vous avez aussi ensuite des activités qui sont purement illégales. Vous avez des activités qui sont légales mais dissimulées, ou qui seraient légales si elles étaient déclarées, mais qui sont dissimulées. Vous avez les activités criminelles, le blanchiment, qui passe par ces plateformes. Et le blanchiment, c'est aussi encore un autre monde, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis cette année, je crois, la France calcule dans son PIB les activités criminelles, ce qui est une injonction de l'Union européenne. Et donc la France maintenant le fait. Ce qui fait que, je ne sais pas d'ailleurs comment Bercy calcule ça, mais maintenant on a une activité criminelle officielle qui fait partie de la comptabilité publique. Et donc le le blanchiment de ces activités criminelles passe aussi par les plateformes, les places offshore, etc., etc. Donc, quantitativement, il est très difficile, sinon même impossible, de chiffrer des choses qui ne sont pas toujours chiffrables.
Alors, c'est difficile quantitativement, mais on peut l'évaluer qualitativement, Alain Deneau.
Tout à fait. Et lorsqu'on analyse le phénomène d'une manière qualitative, on en comprend l'ampleur, l'envergure, sans avoir ensuite à chipoter 107 ans pour savoir exactement ce qui en est du nombre exact de milliards qu'on perd. Mmh. On est dans une dynamique infernale. Dans les États traditionnels face au phénomène offshore. Parce que déjà, il y a évidemment, il y a au moins 5 grands coups. Là. Il y a d'une part, effectivement, les pertes immédiates, parce que l'évitement ou l'évasion fiscale entraîne un manque à gagner dans les finances publiques. On ne n'impose pas des fonds qui ne sont pas déclarés. Mais ce n'est que le début. Parce qu'ensuite, les États qui, je le dirais ainsi, n'ont pas le courage ou la volonté de lutter frontalement contre les paradis fiscaux, se présentent en concurrence avec eux et finissent par les imiter d'une certaine manière. On va dire, ben, au fond, la France est en concurrence avec l'Irlande, avec les Bermudes, avec le Panama, avec le Singapour. Et on veut éviter la fuite de capitaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revoir à la baisse l'impôt sur les sociétés.
Donc, ça entraîne une course au moins-disant fiscal, on peut le dire comme ça.
Absolument. Et on le voit par certaines données. Je veux dire, en Suède, on est passé, quant à l'impôt sur les sociétés, de 16,3%, de 26,3% à 22%. Au Danemark, de 24,5% à 20%. En Allemagne, de 25% à 15%. En France, de 33,3% à 25%. Sans parler de différents cadeaux fiscaux que je n'énoncerai pas. Mais déjà, il y a un manque à gagner d'une deuxième nature qui a trait effectivement au moins 10 ans fiscal. Mais donc, à la fin des courses, les États n'arrivent pas à boucler le budget. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent. Et là, c'est le troisième point. Ils empruntent à des organisations financières et industrielles qu'on n'impose plus. Alors, c'est complètement le monde à l'envers. Parce qu'au titre du service de la dette, on a des contribuables qui se trouvent à financer le capital pour qu'il les aide à boucler le budget parce qu'ils ne les imposent plus via leur État. Et pourtant, les entreprises bénéficient évidemment des institutions publiques, des services publics, les aéroports, le système routier, le personnel qu'on forme sur mesure, les hôpitaux, la police, ainsi de suite. Ce sont des services dont bénéficient au premier chef les entreprises, mais se trouvent à prêter l'argent aux États pour qu'ils puissent financer ces institutions-là. Et on pourrait aller plus loin en parlant de la tarification des services qui devient de plus en plus en vogue dans des États qui parlent non plus de politique maintenant et de services publics et de droits citoyens, mais de gouvernance,
et vous
de
évoquez,
clientèle.
Et vous évoquez aussi, pour finir cette liste, aussi la dégradation des services publics et en effet le fait qu'on soit de plus en plus amené à payer pour ces services. Mais alors, pourtant, si l'on en croit le discours politique, la volonté de lutter contre les paradis fiscaux est bien là, et cela au moins depuis les années 70.
Il y a ce que j'appelle les privilèges d'évasion, c'est le fait qu'il y a en effet des personnes qui se soustraient à l'effort commun et qui ne participent pas au financement de la dépense commune, que ce soit les charges publiques, que ce soit les institutions sociales, et ainsi de suite. D'où la lutte nécessaire contre l'évasion fiscale ou les lacunes de la législation concernant précisément cette possibilité d'évasion.
Il faut en finir avec les paradis fiscaux, car nous n'avons pas à tolérer les lieux où se cache l'argent de la spéculation, du crime et de la fraude.
Les paradis fiscaux doivent être éradiqués en Europe et dans le monde.
Nous serons intraitables en matière de fraude fiscale, intraitables. Et ça, je m'y engage devant vous, il n'y aura jamais une complaisance.
Voilà, Valérie Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Alors, on a d'un côté cette volonté affichée et de l'autre, la réalité de la lutte contre l'évasion fiscale qui est encore largement insuffisante, Jean de Maillard.
Non seulement elle est insuffisante, mais c'est un petit peu un faux-né là aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de paradis fiscal s'il n'y a pas de convention fiscale. C'est-à-dire que pour qu'une place offshore puisse fournir ces services, il faut qu'elles bénéficient de la part de l'État dont sont originaires les utilisateurs de ces places offshore, il faut qu'ils bénéficient d'une immunité fiscale. C'est-à-dire que si on considère que leurs activités relèvent de la place offshore, l'État initial, l'État de départ, n'imposera pas les activités en question. Donc, tous les pays ont des conventions fiscales avec les places offshore, ce qui est la reconnaissance, si vous voulez, de ces places. Comment voulez-vous à la fois lutter contre quelqu'un que vous venez de reconnaître comme parfaitement légitime? Toutes ces déclarations que vous nous avez passées avec une certaine ironie montrent bien que nous sommes face à un double discours, que en réalité, plus le discours se veut ferme, autoritaire et engagé, et plus en réalité il dissimule une volonté de ne rien faire.
Alors depuis la crise de 2008, il y a quand même un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, notamment les listes noires de paradis fiscaux, et il y a aussi un certain nombre de politiques qui ont été mises en place qui permettent l'échange d'informations fiscales et bancaires, et cela passe notamment par le vaste plan de l'OCDE, le BEPS. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, Jean de Maillard, et voilà, et nous expliquer en quoi ces mesures constituent peut-être ou non, selon vous, des avancées?
Alors, les fameuses listes noires, effectivement, c'est très à la mode depuis les années 90 de faire des listes noires. Tout le monde a fait sa liste noire. Vous avez eu la BRI, qui est la Banque Centrale des Banques Centrales. Vous avez eu l'OCDE, vous avez eu le Forum de Stabilité Financière, l'OCDE, l'Union Européenne en dernier lieu. Tout le monde a sa liste. Sauf que ces listes, c'est tout à fait étrange parce que on ne sait pas comment elles sont faites, on ne sait pas comment on y rentre et on ne sait pas comment on en sort. Pour se parler simplement de l'Union européenne, par exemple, puisque, effectivement, on va peut-être y revenir, il y a eu des évolutions, par exemple, la Suisse a évolué sur la question notamment du secret bancaire, qui est un des éléments clés des paradis fiscaux. L'Union européenne a commencé par faire une liste de 17 pays, je crois. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a plus que 7. Première particularité, c'est qu'il n'y a aucun pays européen dans la liste de l'Union européenne. Il n'y en a jamais eu, et probablement il n'y en aura jamais. C'est extraordinaire.
Il n'y a pas non plus le Delaware, par exemple.
Il n'y a pas non plus. Mais je veux dire que l'Union européenne, même si elle est myope, elle pourrait au moins déjà savoir que chez elle, il y a quand même quelques préoccupations. En Irlande, en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, le problème sera bientôt réglé, mais en Belgique, en Luxembourg, il y a des problèmes chez nous. Non, l'Union européenne nous dit les paradis bancaires et fiscaux, les paradis fiscaux, c'est très loin, l'île de Guam, c'est Samoa, des lieux que moi-même je suis incapable de placer sur une carte. La volonté de lutter contre les paradis fiscaux, c'est toujours chez les autres, c'est ailleurs, c'est jamais chez soi.
Alain Deneau, je voudrais vous entendre là-dessus, mais aussi sur le fait qu'il y a quand même un certain nombre d'échanges d'informations fiscales et bancaires qui ont été mis en place. De nombreux pays de l'OCDE ont mis en place ces accords de manière effective cette année, et cela a donné lieu à un certain nombre d'amendes. Les États ont quand même récupéré des sommes importantes.
On est parfois confronté à des cas aussi où les États ont accès à l'information et ils n'en font rien. On a parlé beaucoup du verrou de Bercy en France. Chez nous, l'Agence du revenu du Canada, par exemple, règle hors cours souvent de manière très avantageuse pour les contribuables visés des litiges. Ce qui ressort de toute cette négociation, notamment présidée par l'OCDE, c'est qu'on a fini par faire passer le problème des paradis fiscaux comme un enjeu purement technique. Bien sûr qu'il y a des enjeux techniques en cause. Bien entendu qu'on ne peut pas faire l'économie de questions liées aux politiques fiscales et à un certain nombre de technicalités financières. Mais encore faut-il que cette réflexion-là se fasse sous l'égide d'une prise de position politique forte et qui ne soit pas strictement de circonstances comme les extraits que vous nous avez fait entendre. La question de l'ingérence politique est par exemple centrale. Lorsqu'un État comme les Bermudes nous dit en vertu de son droit, qu'on peut créer une société là-bas exemptée, dite exemptée, qui suppose qu'elle ait droit à des avantages fiscaux considérables et aussi à l'opacité, à la condition que cette entreprise-là n'ait aucune activité sur le territoire du pays concerné. Qu'est-ce qu'on se trouve à faire? On se trouve à légiférer sur la façon dont le capital sera administré partout dans le monde, sauf aux Bermudes. Il s'agit évidemment d'une forme subtile d'ingérence politique. Parce que ce capital-là, il est étranger au territoire sur lequel la législation des Bermudes a des prérogatives et une autorité. Et on pourrait très bien, sur un mode politique et diplomatique, si on était sérieux, signaler aux Bermudes qu'on ne reconnaît pas tel ou tel ou tel article de loi parce qu'il constitue une façon abusive de légiférer, exactement ce qu'a fait Margaret Vestager en Europe par rapport à l'Irlande dans le cas de la société Apple. Elle a explicitement présenté les politiques fiscales de l'Irlande comme étant abusives parce qu'elle légiférait sur la façon dont Apple payait ses impôts à l'échelle de l'Europe plutôt qu'à l'échelle du pays concerné. Donc, s'il y avait une volonté, elle serait de cet ordre-là. Et effectivement, il ne s'agirait pas de signer des conventions fiscales dont a parlé les conventions fiscales dont a parlé Jean de Mayer, mais de faire preuve d'un rapport de force avec des États qui sont même plus autonomes, mais qui ont loué leur souveraineté, pour reprendre l'expression que vous citiez tout à l'heure.
Ce qui pose aussi la question de la sanction, Alain Deneau. Qui faut-il sanctionner? Les intermédiaires ou les vrais coupables? Écoutez l'avocat William Bourdon qui s'exprimait dans les matins de France Culture, c'était en novembre 2017.
Alors c'est quoi le mouvement aujourd'hui? C'est une espèce de course-poursuite. Parce que l'argent sale, l'argent caché, évidemment, quand il sent qu'il est en péril dans les sanctuaires historiques dans lesquels il était, va trouver d'autres sanctuaires. Donc il migre. Et cette migration, elle se fait parce qu'il y a cet engineering exceptionnel. Alors c'est quoi la conséquence de ce qu'on est en train de se dire? C'est qu'il n'y aura jamais de lutte efficace contre les paradis fiscaux s'il n'y a pas de mécanismes de sanctions extrêmement sévères contre ceux qui permettent d'optimiser ces trous noirs de la finance mondiale, et si on n'attaque pas de plein fouet la responsabilité de l'ensemble de ces ingénieurs de l'évasion fiscale, les auditeurs, des comptables, des cabinets d'avocats, et ça, c'est sans doute une des frontières les plus difficiles à atteindre, parce qu'elle va se heurter évidemment des résistances considérables.
C'est cette question de la sanction et peut-être aussi et surtout de son application qui pose problème aujourd'hui, Jean de Maillard.
Oh ben c'est évident. Et je vais peut-être vous surprendre en tant qu'ancien magistrat, mais personnellement, je suis plus sceptique que William Bourdon, qui est avocat, sur la sanction.
Dans quel sens?
Dans le sens où je crois que c'est pas parce qu'on a interdit le vol qu'on a empêché les voleurs, et c'est pas parce qu'on les punit qu'on les empêche de recommencer. Je crois beaucoup plus à une action politique, enfin je crois beaucoup plus. Je pense que c'est là-dessus que il faudrait agir, parce que tout cela relève en fait, encore une fois, de législation, de souveraineté, de questions donc qui concernent les États. Et on l'a vu avec les Panama Papers, le Paradise Papers, etc., que les gouvernements sont sensibles à une seule chose, c'est à leurs opinions publiques. Et quand une opinion publique est mobilisée, là, les choses peuvent évoluer. C'est comme ça qu'il y a eu une évolution du secret bancaire suisse, une érosion du secret bancaire, forte, mais peut-être pas non plus totale, mais qu'on a quelques petites avancées. Les sanctions, on va voir, il y a le procès UBS en ce moment, on va voir ce que ça donne. Certes, il peut y avoir une sanction financière importante qui va tomber sur cette banque. Est-ce que ça va suffire à dissuader le secteur bancaire et financier de ces pratiques? Il faudra un certain temps pour ça.
Mais
le
alors,
savoir.
On arrive presque au terme de cette émission. Mais Alain Deneau, qui est-ce qu'il faut sanctionner? Est-ce qu'il faut plutôt cibler les intermédiaires? Est-ce qu'il faut plutôt cibler les vrais coupables? Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais par sanction, ça dépend si on entend une sanction sur un mode légal automatique qui procéderait du droit ou sur un mode politique qui supposerait des initiatives de nature diplomatique.
Pour vous, ça passe par la solution plutôt diplomatique. C'est la pression diplomatique sur les États impliqués qui pourraient débloquer les choses.
Jusqu'à maintenant, on a fait comme si on faisait preuve d'ingérence si on indiquait aux Bermudes, au Panama, au Luxembourg ou à Singapour ce qu'on pense d'un certain nombre de lois qui sont abusives. Alors qu'à l'inverse, ce sont ces lois-là qui se trouvent à permettre une forme subtile d'ingérence. Donc oui, effectivement, c'est sur ce plan-là d'abord qu'on pourrait agir pour s'attaquer au cœur du problème. Et d'autre part, faire en sorte que les multinationales deviennent des sujets de droit. C'est tout un chantier. Mais cesser de faire comme si on pouvait encore penser ces structures-là avec un droit rédigé au 19e siècle, avec l'idée du lieu de résidence, comme si la filiale de telle multinationale dans tel pays était en quelque sorte suffisante et était au fond la seule structure que devait considérer un État quand vient le temps de traiter son cas. Donc ce sont deux enjeux fondamentaux si on veut éviter d'être simplement dans des effets de manche.
Parce que toute la question, Alain Deneau, pour conclure, c'est finalement que ce qui se joue ici, c'est le rapport de force entre les États et les multinationales, rapport de force dont on a l'impression qu'il est de moins en moins en faveur des États.
Aussi parce que nous élisons des gens qui proviennent de ces milieux qui recourent aux paradis fiscaux. Donc la volonté est très faible. Nous avons au Canada un ministre des Finances qui lui-même a des participations dans une structure qui porte son nom et qui est active à la Barbade. On pourrait parler d'un pays où le président vient du secteur bancaire. On pourrait parler d'un pays où le président vient du secteur immobilier. Donc ce sont des acteurs qui n'ont aucun intérêt eu égard à leur appartenance de classe aussi. Je ne parle pas simplement d'intérêt ville et personnel, mais à leur appartenance de classe, de lutter contre un système qui est tout à fait intégré à l'activité industrielle et financière mondiale.
Un dernier mot très rapidement, peut-être, Jean de Maillard, sur ce rapport de force entre les États et les multinationales.
Oui, c'est indéniable qu'il existe une consanguinité entre les élites politiques et les élites économiques et financières. Il est indéniable aussi que les États sont de plus en plus faibles et sans doute de plus en plus complaisants. Donc, d'un côté, les opinions public s'exprime aujourd'hui, c'est une bonne chose, notamment, comme je disais, au travers des Panama Papers, par exemple. Mais le relais politique, lui, manque encore à l'appel le plus souvent.
Et ce sont des questions, évidemment, qu'on va continuer à suivre de près. À Entendez-vous l'écho. C'est l'heure de retrouver Arjuna Andra pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur l'annonce de la création d'un revenu universel d'activité faite par le président de la République.
Oui, ce dispositif a été présenté le mois dernier par le président Emmanuel Macron comme l'une des pierres angulaires de sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Or, ce qui nous intéresse justement avec ce revenu dit universel, c'est qu'il n'a d'universel que le nom. Le président a ainsi présenté les grandes lignes de cette allocation qui devrait fusionner, je cite, le plus grand nombre possible de prestations et dont l'État sera entièrement responsable. Cette allocation unique viendrait donc remplacer les multiples minima sociaux versés par l'État et serait, grande nouveauté, versée automatiquement à ses bénéficiaires. Cette automaticité du versement serait ainsi une véritable avancée puisqu'elle permettrait de réduire drastiquement le non-recours à ces aides sociales. Ce sont aujourd'hui ainsi près de 30% de ces allocations qui n'atteignent jamais leurs bénéficiaires. En cause, la complexité des démarches, la méconnaissance des droits ou une forme d'embarras et de fierté qui pousse les allocataires potentiels à ne pas effectuer leurs demandes.
On peut donc parler d'une allocation unique et automatique mais pas universelle, Arjuna.
Non, et pour la simple raison que son versement serait soumis à des conditions de ressources et qu'il impliquerait des contreparties de la part des allocataires. Des devoirs, selon les mots du président. Or, comme le rappelle un article du Monde, le revenu universel dans son acception la plus commune, défendue notamment par le mouvement pour un revenu de base repose sur plusieurs critères d'inconditionnalité, d'universalité, d'automaticité et sur la possibilité pour les bénéficiaires de le cumuler avec d'autres aides ou revenus. Hors de ces critères, le dispositif macronien n'en reprend qu'un.
On peut donc s'interroger sur les raisons qui ont poussé le président à parler de revenu universel.
Oui, et on touche en réalité ici à une torsion assez classique du langage par le politique. Le double objectif pour le président de la République est ici non seulement de reprendre à son compte la valeur symbolique que véhicule ce terme, mais aussi dans un même mouvement de priver ses adversaires de son usage. Ainsi, le revenu universel renvoie à un imaginaire très fort qui touche, selon la conception qu'on en a, des partisans de droite comme de gauche. En reprenant à son compte ce terme, brinque-ballé d'une définition à l'autre, d'un parti ou d'une sensibilité à l'autre, le président de la République opère en réalité un travail de capture et de fixation du réel. À l'avenir, avec la mise en place de ce dispositif, il pourra se targuer d'avoir mis en place un revenu universel, intégrant, épuisant même par la force du politique, les contradictions et les mensonges d'une telle affirmation.
Ce pouvoir du langage et sa capture progressive par le politique a d'ailleurs été mis en lumière par de nombreux intellectuels.
Oui, depuis les linguistes et les philologues, analystes des usages du langage, jusqu'aux travaux d'Éric Hazan, qui dans un ouvrage intitulé « Lingua quinte res publicae » ou la propagande au quotidien, se livre à une critique sémantique de la Ve République. Pour l'auteur, la LQR, cette hybridation postmoderne de la langue, a largement contribué à la mise en silence, à la mise en berne même des conflits politiques, économiques et sociaux. En opérant un travail d'euphémisation du réel et d'essorage sémantique, selon les mots de l'auteur, cette nouvelle langue utilisée par les hommes politiques permet de cacher dans les replis d'un langage fade et normé la réalité des décisions politiques. En clair, les mots sont vidés de leur sens ou utilisés pour ce qu'ils ne sont pas, à des fins de pouvoir et de dissimulation. Les politiques emploient ainsi une série de termes qui, derrière leur apparente neutralité, véhiculent en fait une vision du monde cohérente avec leurs intérêts. Ainsi, pour légitimer le contrôle des chômeurs, on parle d'assistanat, on ne parle plus de cotisations sociales mais de charges, plus de licenciements mais de plans de sauvegarde de l'emploi. Le langage travaille en éclaireur de la pensée, il opère une œuvre de transformation politique si puissante qu'il parvient à nous faire épouser des logiques et des causes qui nous seraient a priori étrangères. En opérant ces hold-up sémantiques, les politiques brouillent encore plus les lignes d'un clivage politique qu'ils prétendent dépasser. Éric Hazan va même plus loin et explique dans la revue Regard que le but de cette langue fantôme est bien de faire accepter l'inacceptable, de légitimer des réformes incessantes, qu'elles aillent ou non dans le sens du bien commun.
C'est sur la voix de la reine du funk, Sharon Jones, accompagnée de son groupe, les Dap Kings, que l'on va se quitter. Merci beaucoup Alain Deneau et Jean de Maillard de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Alain Deneau, je rappelle quelques-uns de vos livres, Une escroquerie légalisée, précis sur les paradis fiscaux, paru aux éditions Éco-Société, et Offshore, paru à La Fabrique. J'en profite également pour remercier les techniciens de Radio-Canada, Fredericton au Canada, qui ont permis ce duplex. Et Jean de Maillard, je rappelle également votre livre, L'arnaque, la finance au-dessus des lois et des règles. Il a été publié aux éditions Gallimard. C'était le troisième épisode de notre série consacrée au sens de l'impôt. Demain, c'est la fiscalité environnementale qui va nous intéresser. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast, et à nous rendre visite sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.